Cinquième partie. Chapitre 1. Adrienne ne pouvait détacher ses pensées de cette supposition, si Samuel était arrivé le premier. Mais c'était à tort qu'elle se forgeait cette inquiétude rétrospective. Même dans l'état d'ébranlement nerveux où se trouvait Zoé, toute tendue pour recevoir une commotion, elle n'aurait probablement rien senti de particulier si le hasard lui avait envoyé Samuel au lieu de Jules. C'était pour Jules que s'était fait le travail intérieur de toutes ces semaines, c'était à Jules ou à personne que chaque incident devait profiter. Ce n'est pas un petit choc, une légère poussée qui détermine ces bouleversements profonds. La pierre a glissé longtemps sur la pente avant d'arriver à l'extrême bord d'où elle se précipite. Avant cette minuscule aventure, Zoé n'aimait pas son cousin, mais elle s'était peu à peu inclinée à l'aimer. L'amour n'est pas de composition aussi simple que notre désir instinctif d'unité nous le représente. Il est fait de ceci et de cela, de mille choses, de poésie et d'égoïsme, d'opinions préconçues, de surprises et de curiosités, de satisfaction d'amour-propre, et aussi, chez les jeunes filles très sensitives et très bien gardées, du sentiment d'une convenance supérieure, d'une harmonie générale de tous les rapports. Zoé n'aurait jamais pu mettre son amour en dehors de cette harmonie, ni rompre avec certaines conventions sociales. Ce qu'elle avait aimé d'abord chez Jules, c'était Adrienne, et puis cette famille charmante, cultivée, unie, et la fierté d'y entrer, et la joie de savoir qu'elle comblait les vœux de son aïeul, et cette atmosphère tiède, caressante, qui tout de suite avait entouré la petite fiancée. Ensuite, le cercle se resserrant, elle s'était prise peu à peu à aimer la manière d'être de Jules, cette manière d'être correcte qui lui inspirait une parfaite sécurité, sa façon de lui parler, attentive, hésitante, comme s'il craint de lui déplaire. Alors, il avait suffi du premier incident venu, du plus banal, pour la jeter tout au centre de ce cercle fermé où s'opère la mystérieuse incantation, où les éléments divers dès longtemps rassemblés se fondent en l'amour. Elle ne se lassait point de rêver à cette chose merveilleuse, à cette transformation d'âme. Entre elle d'hier qui ne comprenait pas, qui ne sentait rien, dont les yeux étaient voilés et le cœur en léthargie, et elle d'aujourd'hui, toute vibrante d'émotions inconnues, éblouie de lumière, palpitante de tendresse et de joie, il y avait un mystère, elle aurait presque dit un miracle. Elle revoyait les soirées d'autrefois, de l'hiver précédent, si lointaines, et le lourd ennui qui pesait sur elle, tandis que Mademoiselle Sélanie lisait le journal d'une voix lente, et que M. Clovis faisait craquer ses doigts en les entrelaçant. Sa timidité seule dans ce temps-là lui faisait battre le cœur un peu vite. Elle songeait à ses lectures romanesques, avec le sourire, l'air d'expérience d'une personne qui a passé par là. Aramis et Monte-Cristo avaient pâli, ils se fondaient, ils s'effaçaient dans les brumes grises du passé d'hier qui, d'heure en heure, semblait plus irréel. Pourtant, quelques incidents se détachaient encore de ce fond confus, comme des sommets ensoleillés de collines qui surgissent d'une mer de brouillard blanc. Sur le large rebord de la fenêtre du corridor, Zoé se revoyait assise, les pieds ballants, la tête inclinée en arrière, suivant des yeux le vol des hirondelles autour de l'auvent d'où pendaient les guirlandes de la vigne vierge. Samuel était là, debout, et il parlait. Il disait d'une voix basse, contenue, des choses que Zoé ne comprenait pas, mais qui, tout à coup, lui révélaient un pays inconnu. C'était alors pour la première fois qu'elle avait souhaité d'aimer. Comment se faisait-il que Samuel parlât de ces choses si bien qu'on les désirait, qu'on les sentait presque ? « Il aime aussi, » pensa Zoé. « J'espère qu'il est heureux. Je lui dois tant. » Elle songeait encore à cette longue conférence d'Adrienne, cette confidence qui les avait menés perdre dans les rochers, qui l'avait troublée, elle, de jalousie inconsciente, en lui révélant que sa tranquille amitié pour Jules n'était pas de l'amour, y ressemblait moins encore que la froide lueur de la lune ne ressemble à l'éclat resplendissant du soleil. Elle avait senti dans ce moment qu'il y avait pour elle un livre clos et scellé, tandis que d'autres en feuilletaient librement les pages, écrites dans une langue que seule comprenait. N'était-ce point l'émotion de cette demi-heure de causerie, en la faisant soupirer après un bien inconnu, qui tout à coup lui avait donné ce grand élan pour le saisir ? Elle retrouvait au fond de sa mémoire, tout au fond, cette tristesse vague qui lui avait fait croire et dire tant de fois qu'elle ne ressemblait à personne, que la part commune n'était pas pour elle. Avec quel tremblement elle l'avait sentie dans ses mains, cette part de joie qu'elle tenait depuis des semaines sans s'en douter. Par un revirement assez singulier, c'était Mademoiselle Célanie plutôt qu'Adrienne qu'elle choisissait pour confidente de tous ces mouvements intimes que les mots exprimaient mal. Adrienne avait trop vu et trop analysé la phase d'amicale indifférence. Zoé se sentait gênée de lui décrire une métamorphose qui la trouverait peut-être railleuse et incrédule. Mais Mademoiselle Célanie, elle, croyait à l'amour, avant, pendant, après, partout. C'était pour elle l'essence des choses, elle en découvrait, là où il n'y en avait pas l'ombre, elle se baignait dedans comme un lézard se baigne de soleil. Tandis qu'Adrienne, chaque matin, écrivait ses lettres, Zoé et sa grand-tante faisaient, en causant, d'interminables tours de jardin. Mademoiselle Célanie rajeunissait à la douce tiédeur de cette intimité. Elle n'était plus l'institutrice, mais l'amie de cœur. Elle retrouvait les gestes familiers, les caresses, les exclamations de son jeune temps. Elle voulait tout savoir, elle versait des larmes d'attendrissement. Et comme elle triomphait de Flore, l'endurcie, l'incrédule. Et quand Zoé, essayant de peindre par des mots malhabiles les choses extraordinaires qui se passaient dans son cœur, s'arrêtait, cherchant d'autres façons de dire, c'était sa tante qui les trouvait. Elle comprenait tout, c'était si bon. Jamais elle ne raillait, et même elle trouvait moyen de prouver à Zoé, qui avait des accès de regret, s'accusant de sécheresse de cœur, qu'elle avait aimé Jules tout le temps. Il fallait l'entendre, Mademoiselle Célanie, quand elle parlait de Jules, avec quelle tendresse, avec quelle faculté imaginative, elle découvrait sous son aimable médiocrité les germes de tout ce qui est héroïque et brillant. Zoé avait besoin qu'on le lui rehaussât un peu, et bien qu'elle sourit des extases de la vieille demoiselle, pour qui Jules, s'il montait à cheval, était un centaure, un héros, s'il écartait du chemin quelques vaches paisiblement ruminantes, le premier génie du siècle parce qu'il établissait des sonnettes électriques dans la maison, elle écoutait sa tante avec complaisance et recueillait bien des choses dans son cœur. Avec Jules, Zoé était fort réservée à l'ordinaire, elle l'était même plus qu'autrefois, et c'est à peine s'il se doutait de la place qu'il tenait maintenant dans cette vie close et cachée. Un soir qu'il pleuvait, tout le monde était réuni dans la salle du rez-de-chaussée, autour de la lampe en obélisque. Zoé, un peu désœuvrée, alanguie par une journée chaude, s'amusait à suivre du doigt les petits dessins noirs, les ibis, les arcs, les roues, les scarabées, nettement tracés sur l'émail blanc de la lampe, et elle ordonnait à Jules de lui interpréter ses hiéroglyphes. Comme il y montrait peu d'ingéniosité, les taquineries des deux jeunes filles pleuvaient sur lui. Mademoiselle Célanie déplia le journal et il se fit un silence. Parcourant des yeux les trois premières pages, elle passa tout de suite à la quatrième, aux avis encadrés de noir, et elle commença d'une voix triste et dolente. « Les parents, amis et connaissances de... » Elle s'interrompit et Zoé, levant la tête, rencontra le regard anxieux, interrogateur de sa tante. Le grand-père entr'ouvrit les yeux. « Eh bien, tu es devenue muette ?» Vite, elle chercha plus loin, mais il n'y avait pas d'autre avis mortuaire, et à moins d'inventer quelque nom pour le substituer à celui qu'elle redoutait de lire. Mais cela était impossible, cela eût causé des complications à l'infini. « Je crains, mon père, que cette nouvelle... »« Quelle nouvelle ? » cria-t-il, prompt à s'irriter. « C'est un de vos vieux amis. »« Je n'en ai plus, ma fille, je n'en ai plus. » « Ceux de mon âge sont tous partis, » dit-il, frottant lentement ses longues mains grises. « Qui est-ce, Célanie ?»« Cela vous donnera un coup, » murmura-t-elle, hésitant encore. « Si c'est pour me préparer toutes ces cérémonies, je suis préparée, » fit le vieillard avec impatience. « La fin vient pour chacun, allons donc, il faut se faire une raison. » « C'est François Dumont, » dit-elle alors, épiant avec inquiétude sur le visage de son père l'effet de cette nouvelle. « Tiens, François Dumont » répéta-t-il, passant ses doigts dans sa longue barbe. « Ah, il est donc mort, le pauvre François, 2 ans de plus que moi. Tiens, tiens, il est mort. Je disais bien que son tabac finirait par lui jouer un vilain tour. Mauvais pour les bronches, pour le cerveau, pour les yeux, le tabac. Voilà 40 ans que j'y ai renoncé, 42 pour être exact. T'en souvient-il, Clovis ? C'était en 48, l'année des grandes bêtises patriotiques. Louis revenait de la Havane, ton grand-père, Zoé, le père de ton père, il m'en rapportait un caisson d'excellents cigares que je fumais encore pour ne pas lui causer de déplaisir, mais après cela, ce fut fini et je m'en trouve bien. Ah, François Dumont est mort. Et le fameux plat d'argent, à qui ira-t-il ? Vous lirai-je la notice nécrologique, mon père ? Demanda Mademoiselle Célanie. Lis-la, si tu veux, quoique je ne m'y fie guère à ces notices. Savez-vous, mes amis, fit-il en se redressant faiblement, qu'aujourd'hui, le plus vieux Neuchâtelois, c'est moi ? Cela vaudrait bien qu'on me félicitât un peu. C'est vrai, mon père, je n'y songeais pas, dit Mademoiselle Célanie, qui se leva et vint l'embrasser. « Monsieur m'excusera, dit Flore droite comme un sabre, mais il m'est impossible de le féliciter pour ça. Ça aurait l'air de se réjouir de la mort d'un autre, et ça pourrait porter malheur à monsieur. »« Taisez-vous ! » cria le vieillard, en se dressant comme galvanisé, les deux mains crispées au bras du fauteuil, tournant vers Flore son visage pâle et ses yeux obscurcis. « Ah, c'est inqualifiable !» dit Jules, qui passa devant Flore pour courir au vieillard. « C'est brutal. Cher monsieur, remettez-vous, calmez-vous. » Il y eut un long silence. Flore supporta pendant quelque temps ce feu de tous les regards indignés qui se fixaient sur elle, puis elle sortit lentement sans rien ajouter. Dans sa conscience fruste, elle était certaine d'avoir accompli un devoir, d'autant plus impérieux que personne ne s'en serait chargé à sa place. Reprendre son maître était sa mission spéciale et son plus intime plaisir. « Cette fille me donne sur les nerfs, elle m'ébranle, elle me fait du mal !» gémit M. Romanel, autour de qui chacun s'empressait. « Je la réprimanderai, mon père !» fit Mademoiselle Célanie toute contrite. « Oh, toi, tu as peur d'elle! Si elle s'acharne après moi, c'est bien ta faute !» rétorqua son père avec acrimonie. Flora n'a pas un mauvais fond, je ne veux pas qu'on la gronde. Si la maîtresse savait tenir sa place, la servante ferait de même. Non, je ne veux pas qu'on la gronde. » Il y avait comme une crainte superstitieuse au fond de ses paroles. On eût dit que le vieillard voyait dans les mains de Flore le fil mince et fragile de sa vie. « Je ne demandais pas, reprit-il, tandis que ses yeux inquiets cherchaient à travers leur brouillard les visages environnants. Je ne demandais pas qu'on me félicitât de la mort de François Dumont. Pauvre François, s'il ne tenait qu'à moi, il serait encore chaud et vivant. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que je suis le plus vieux Neuchâtelois. C'est incontestable, il n'y a pas de mal à le dire. » Pas le moindre, et je te souhaite de l'être longtemps, dit M. Clovis de sa voix cordiale qui tremblait un peu. Merci, Clovis, merci, fit l'aïeul en lui serrant la main. « Je te souhaite longue vie, à toi aussi, à vous tous et à Flore, » ajouta-t-il. Il fallait dire des mots de bon augure pour conjurer l'ombre noire qui, pendant quelques instants, avait rempli l'air. M. Romanel eut une mauvaise nuit. Quand sa fille entra chez lui le matin, elle le trouva défait et abattu. « Vous avez mal dormi, mon père ?»« Ne fais pas de sottes questions. J'ai dormi comme on dort à mon âge. » « Va dire à Flore que je ne suis pas fâché contre elle, pas fâché du tout. As-tu entendu ? Pourquoi ne bouges-tu pas ?» Mademoiselle Célanie, étonnée, sortit pour s'acquitter de son message et revint en disant que Flore présentait ses respects à monsieur. « Bien, bien, c'est une bonne fille. Un peu brusque, mais ses intentions sont excellentes. Assieds-toi là, Célanie. » Il se redressa sur ses oreillers, puis joignit devant lui ses mains maigres. Mademoiselle Célanie le regardait, et son pauvre cœur filial se serra. Jamais son père ne lui avait paru aussi vieux, aussi émacié, aussi ravagé par la vie qui avait creusé ses joues, tracé des sillons sur ses mains, entre ses veines saillantes et bleues, tordu ses pauvres doigts, flétri et desséché la peau, éteint les yeux. Elle revoyait son père à 50 ans, grand, impérieux, l'allure militaire, portant haut la tête, le regard perçant. Il avait eu 3 femmes, belles toutes les 3, dont les portraits étaient là dans la chambre, des pastels un peu effacés, qui regardaient de leurs yeux pâles l'époux d'autrefois, le maître redouté. Une mélancolie poignante s'empara de Mademoiselle Célanie, qui baissa la tête, songeant à bien des choses passées. « Ne t'imagine pas, lui dit son père, sortant d'un long silence, que je sois moins bien qu'à l'ordinaire. Non, mais à mon âge, il convient de se préparer à... certaines... éventualités. Où est Jules ? Fit-il, s'interrompant brusquement. Il vient de partir, mon père. Bien, et Zoé ? Elle est chez sa cousine. J'aime à penser à ces 2 enfants. C'est moi qui ai fait leur mariage, dit le vieillard en s'attendrissant. Clovis n'y pensait pas, mais j'ai tout arrangé et Jules aura de l'argent pour s'établir. La petite se souviendra de son vieux grand-père. Célanie, il se peut que je voie encore le premier bébé de Zoé si elle se dépêche. Nous aurons un beau baptême ici, à la Maison Grise. On n'aura jamais vu pareille chose. L'enfant de mon arrière-petite-fille, je le tiendrai dans mes bras. Alors, je pourrai m'en aller. Oh ! Murmura Mademoiselle Célanie, tout cela est bien lointain. Lointain ? Répéta-t-il, subitement irrité. Je te dis que dans 1 année, nous baptiserons. Qu'est-ce que cela, 1 année ? Mais il faut les marier, ces jeunes gens. On a déjà trop tardé. Fais-tu activer le trousseau seulement ? Le visage de Mademoiselle Célanie s'éclaira. Elle tira de sa poche un calepin qu'elle se mit à feuilleter complaisamment pour donner à son père des indications précises sur les serviettes ourlées et à ourler, les draps, les nappes. Adrienne nous est très utile. Elle sait comment on fait les choses aujourd'hui. Moins de linge qu'autrefois, les armoires sont trop petites. Zoé n'aura que 3 douzaines de draps, mais nous avons choisi une toile magnifique, lustrée, souple comme de la soie. Les échantillons de nappes damassées sont arrivés hier soir. « Je veux que tout soit très bien, » dit le vieillard. Clovis le veut également. « Ah, Zoé est une enfant gâtée, » soupira Mademoiselle Célanie. Son père était retombé dans ses pensées. Un peu là, il fermait les yeux et toussait de temps en temps. Mademoiselle Célanie se leva, prit sur la table une boîte ovale à couvercle d'émail. Elle l'avait vue bien des fois, cette bonbonnière, dans la table à ouvrage de sa seconde belle-mère, celle dont les yeux noirs, là-haut, de leur cadre terni, la suivaient d'un regard presque agressif. Des souvenirs passaient en foule dans son esprit, comme un vol de feuilles mortes que le vent chasse, tandis que ses doigts minces, qui avaient gardé la flexibilité et les mouvements délicats de leur jeunesse, ouvrait le couvercle sur lequel dansaient des bergères en vertugadin. « Prenez une pastille de guimauve, mon père, pour votre toux. »« Merci, » dit-il, tendant la main avec une docilité distraite. « Ce n'est rien, cette toux, elle ne m'inquiète nullement. Les bronches, c'est ce que j'ai de plus solide. Mais je suis vieux. » Une contraction passa sur son visage, sur sa bouche enfoncée, qui remua nerveusement pendant quelques secondes, comme si le vieillard se parlait à lui-même. « Célanie, dit-il enfin d'une voix altérée, si jamais il m'arrivait quelque chose, il faut voir les choses en face. Si je mourais, Célanie. » Il ne put continuer. Mademoiselle Célanie, tout en larmes, s'agenouilla près de lui, appuya son front sur la vieille main qui rarement l'avait caressée et qui était néanmoins ce qu'elle avait de plus cher. « Je voudrais pouvoir vous donner les années qui me restent, murmura-t-elle. « Vous aimez la vie, mon père !»« Oui, j'aime la vie !» cria-t-il avec un soudain désespoir. « J'ai été heureux. 100 ans de vie, c'est encore peu, puisque cela finit. »« Mon père, nous avons une espérance » essaya-t-elle de dire. « Oui, oui, je sais » fit-il avec un mouvement impatient de la main. « Va-t'en, ma bonne fille, je vais me lever. » mais quand elle fut près de la porte, il la rappela. « Ne pourrait-on fixer ce mariage dans une quinzaine, par exemple ?»«
Mais, mon père, les annonces ne sont pas publiées. »
« C'est vrai, dit-il, humilié d'avoir perdu un instant sa lucidité ordinaire. Mais dans 6 semaines, tout peut être réglé. »«
Oui, à la rigueur, nous prendrons une ouvrière de plus pour le trousseau. » »«
Parfaitement, va leur dire que j'ai décidé la chose et arrange-toi pour que tout soit prêt. Zoé sera contente plus tard, ajouta-t-il tour à gaillardie, de pouvoir dire que son arrière-grand-père était de sa noce. »